Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast « Elles s'attablent ».
Elles s'attablent.
Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Elle s'attable, le podcast des femmes qui changent le monde à travers les assiettes. Aujourd'hui, nous sommes à Passy, au marché de Passy, dans le 16e arrondissement parisien. Et nous avons la chance de recevoir Clotilde Jacoulot, MOF, meilleur ouvrier de France primeur, qui va nous raconter un petit peu son histoire et son métier. Je voudrais en profiter pour remercier la maison Bertholin, qui est donc primeur et qui nous accueille sur le marché de Passy aujourd'hui. Alors, vous entendez des bruits, c'est normal, il y a des frigos qui tournent autour de nous. On est environné par des poissonniers, par des boulangers. Et devant nous, il y a donc un étal de primeur extraordinaire de toutes les couleurs dans lesquelles se bousculent les pêches plates, les poivrons, les carottes, les haricots verts, les tomates, etc.
Elle s'attable.
Bonjour Clotilde.
Bonjour Danielle.
Merci infiniment de nous rejoindre. Alors, vous êtes primeur.
Tout à fait, je suis primeur à Morteau.
Voilà, dans les Vosges.
Ah, pas du tout. Dans le Doubs, dans la montagne du
Autant
Jura.
Pour moi,
c'est là il y a beaucoup de confusion parce que Morteau, on connaît tous la saucisse.
Exactement.
Mais alors, c'est vers la Suisse et c'est la montagne du Jura, le département du Doubs.
D'accord. Mais moi, j'ai envie de dire Morteau, la saucisse et surtout la primeur.
Alors oui, moi je dis toujours, il n'y a pas que la saucisse à Morteau, il y a aussi plein d'autres choses, en particulier l'horlogerie, mais aussi effectivement, moi je suis primeur à Morteau depuis 25 ans. J'ai repris une affaire familiale qui existe depuis 1961, après mon grand-père, après mes parents, et me voilà avec mon mari depuis 25 ans aux commandes.
Vous étiez programmée, entre guillemets, pour reprendre ou pas du tout ?
Alors, pas dans l'absolu, puisque nous étions trois filles et puis qu'il faut raconter quand même qu'en 30 ans, le métier a énormément changé. Il était beaucoup plus physique à l'époque. Il fallait tout porter à la main. Alors, c'est vrai que la mécanisation de notre métier m'a permis aussi de me projeter plus dans ce métier. Et puis, avec trois filles, mon papa n'imaginait pas qu'il aurait une fille qui se destinerait à être primeur. Donc, moi, j'ai fait des études de maths. J'ai fait une licence de maths. J'avais envie d'être professeur. Et puis, j'ai commencé à enseigner pour les stages et puis je me suis vraiment ennuyée. Et c'était surtout une opposition au temps que je passais avec mes parents à travailler, déjà à cette époque, puisque comme tout enfant de commerçant qui se respecte, on travaille avec les parents, on donne un coup de main. J'avais déjà mis un petit peu un pied dans une cagette. Et puis après ce stage où vraiment je me suis ennuyée, je peux le dire comme ça, j'avais peu la possibilité de choisir, je ne faisais pas comme je voulais. Je me suis dit, je vais faire primeur parce que je crois que c'est ça mon ADN.
Et donc vous aviez 25 ans ?
J'avais 22 ans.
Ah oui,
j'ai 47 ans aujourd'hui. Et mes parents ont été encore chefs d'entreprise pendant 10 ans. Et maintenant, ça fait 12 ans que j'ai repris l'entreprise. Mon mari m'aide et nous sommes une équipe de 20 avec un magasin à 100% de fruits et légumes. Alors, on ne fait pas de viande, on ne fait pas de fromage. C'est vraiment le palais du fruit et légumes, j'aime le dire comme ça. On fait, si vous prenez des fraises, on va vous faire vous vendre des fraises, des petites, des grosses, de toutes les couleurs, du jus de fraises, des fraises séchées. Voilà, vraiment, le produit... d'une façon courte, parce qu'il n'y a que des fruits et légumes, mais très longue dans le sens c'est qu'on va tous vous les proposer au maximum.
Toutes les variétés, enfin en tout cas un certain nombre de variétés et toutes les formes sous lesquelles ça peut
oui,
se présenter.
Oui, voilà, effectivement. Et puis l'idée, c'est vraiment de s'éclater parce que c'est infini. Moi, j'en apprends toutes les semaines. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je vais aux achats toutes les semaines à Lyon. Je vais au contact des producteurs et j'en apprends toutes les semaines. Et c'est vraiment pas un mensonge de vous dire ça parce que voilà, chaque semaine, je découvre un nouveau produit, un nouveau producteur, une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthodologie, une façon plus écolo aujourd'hui. Voilà, donc c'est un métier dans lequel je m'amuse énormément et c'est un métier qui, à mon avis, devrait être encore plus connu.
Alors justement, on entend beaucoup parler des bouchers, etc. Mais c'est vrai que le métier de primeur est un métier un petit peu moins courant ou en tout cas qui spontanément nous vient moins à l'esprit quand on parle des savoir-faire des métiers de bouche.
Oui, alors effectivement, ma primeur, déjà le mot, quand vous dites boulanger, on comprend bien que c'est de la boulangerie, boucher, on comprend bien que c'est la boucherie. Donc voilà, c'est déjà le mot primeur. Alors il y a eu une époque où on a essayé de dire fruitier primeur pour aider un peu les gens. Moi, des fois, on me dit je suis maraîchère. Alors pas du tout, le maraîcher, il va produire. Moi, je ne fais que sélectionner les produits, aller les chercher dans la bonne région de France, au bon moment, vers le bon producteur avec les bonnes méthodes. Moi, je vais sélectionner et je vais revendre. Mais je ne suis pas une simple revendeuse de fruits et légumes. Il y a vraiment énormément de connaissances à avoir. Donc c'est vrai, on a un métier. Le CAP de primeur existe depuis 5 ans maintenant. Donc c'est un métier qui est lié au commerce, mais il y a quand même énormément de connaissances sur, par exemple, la normalisation des produits. Qu'est-ce qu'une belle pêche? À partir de quand cette pêche, on ne peut plus la vendre? Est-ce qu'une grosse pêche est meilleure qu'une petite pêche? Quelles sont les bonnes zones de production? Le nom des variétés? Alors, voilà, il y a une foultitude de choses à savoir. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on a un métier qui n'est pas statique. On s'ennuie jamais. Il y a 10 ans, je ne vendais pas les mêmes choses qu'aujourd'hui. Les pêches plates, il y a 10 ans, on ne connaissait pas. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est pour moi ma pêche préférée. Donc voilà, on a un métier en continuelle évolution et ça, c'est merveilleux.
Le goût et rien que le goût. Voici le moteur de Christophe Collini. Depuis 3 ans, cet agriculteur s'est spécialisé dans les variétés de fruits et légumes qui ont disparu des étals. Actuellement, il cultive 790 variétés.
27 variétés de melons. Les aubergines, pareil, à peu près une vingtaine de variétés, les poivrons, 15 ou 20 variétés. Je fais 57 variétés de choux, je fais 8 variétés de poireaux, navets, 6 variétés, mais c'est vrai que la part du lion est prise par Madame Tomate avec 280 variétés.
Des tomates toutes différentes, de la traditionnelle cerise à la tomate du voyageur. Sans oublier la Osu Blue, originaire du Japon, que Christophe est l'un des seuls à cultiver en France.
C'est une tomate assez rare, mais la plupart des variétés de tomates sont très rares. Il existe aujourd'hui entre 14 et 15 000 variétés de tomates. Or, aujourd'hui en France, on cultive peut-être une trentaine ou une quarantaine de variétés. C'est très très faible.
Est-ce que j'ai l'impression que la France a une situation géographique et des climats assez incroyable qui lui permet d'avoir une variété de produits absolument extraordinaire? Est-ce qu'il vous semble que c'est la même chose que le thé de Jacoulo?
Alors effectivement, on a la chance d'avoir un climat tempéré mais très varié. On ne va pas du tout trouver les mêmes produits avec les mêmes terroirs. Par exemple, je prends l'exemple de la pomme de terre, où c'est qu'on va avoir un terroir magnifique dans les îles comme l'île de Ré ou l'île de Noirmoutier. Et puis par exemple, la BA du Roussillon, c'est une AOP aujourd'hui en France. C'est une pomme de terre qui a vraiment complètement un autre terroir, même si elle est cultivée au même moment, avec les mêmes techniques, mais qui a vraiment une grosse différence. Et puis après, dans le nord, on va passer dans des cultures de binch, donc ces pommes de terre qu'on va entasser pour qu'elles fassent sec cuite, pour qu'elles deviennent une vraie pomme de terre de conservation. Donc,
et à frites.
Et à frites.
Et à frites. Tiens,
effectivement. Et puis le savoir-faire aussi. Voilà, on a des producteurs aujourd'hui qui ont des savoir-faire, qui ont des connaissances et puis la volonté de produire les bons produits au bon moment et dans les bonnes conditions.
Est-ce que il vous semble que la clientèle des primeurs change également ou pas du tout ? Ou les désirs, les besoins ?
Alors, il faut quand même rappeler qu'un 1,3% de l'argent du ménage est dépensé dans les fruits et légumes.
C'est
seulement. Alors ça, c'est des chiffres de l'INSEE qui datent de 2018. Il y a peut-être eu à peine de changement.
Oui, enfin,
depuis, mais en 3-4 ans, voilà, on reste quand même là-dessus. Alors, ça a changé. Par exemple, il y a beaucoup de primeurs aujourd'hui, moi j'en fais partie, qui faisons de la fraîche découpe. Donc la fraîche découpe, c'est des produits frais, bruts, qui sont légèrement préparés. Donc on va par exemple vous préparer la salade de fruits, les carottes râpées. Et moi, à mon avis, c'est quand même une grande partie de l'avenir du primeur, de prendre le bon produit de saison, travailler dans de bonnes conditions, associées avec l'autre bon produit, et puis de simplifier la vie aujourd'hui des consommateurs, des consommatrices, de la ménagère, je dirais, entre guillemets. Et en fait, cette fraîche découpe, moi je fais ça depuis 8 ans, j'avais quand même des réticences à me dire, il y a des gens que ça ne va pas intéresser. Et bien si, ça intéresse aussi les mamies qui veulent juste 200 grammes de choux râpés, et puis aussi les écolos comme moi, je préfère prendre 200 grammes de choux que de prendre un chou de 1,2 kg, je vais le râper, puis pas sûr que je vais utiliser le reste. Je suis aussi une mère de famille, donc voilà, j'ai envie de gagner du temps, j'ai envie d'aller plutôt à la piscine plutôt que de râper mon chou. Donc voilà, je trouve que vraiment la fraîche découpe, c'est une partie de notre métier. Qui a de l'avenir et je le vois tous les jours au quotidien dans mon magasin et les chiffres parlent d'eux-mêmes.
On est à la fin du mois de juin, oui, le 20 juin. Qu'est-ce qu'il y a sur cet étal qui est vraiment pour vous représentatif de cette saison ?
Alors, il faut savoir que pendant l'été, tout se produit, tout pousse. Ce que vous allez manger cet hiver pousse déjà maintenant. Et puis, par exemple, on est vraiment sur la fin des fraises, déjà la fin des cerises, puisqu'il a un peu plu. Et il faut toujours faire la différence entre ce que vous trouvez dans votre jardin et ce que vous allez trouver chez le producteur. Je vous vois, Daniel, me faire un peu les gros yeux au moment de parler de la fin des fraises. Et c'est vrai que les fraises de France, il y a eu des grosses périodes de chaud. Il faut aussi savoir que notre métier, il est lié aux conditions climatiques. On a eu des super périodes de chaud, chaud, chaud. Donc là, toutes les fraises poussent en même temps. Grosse difficulté pour ramasser. Et puis derrière, les semaines après, on a moins de fraises ou alors on n'a pas eu le temps de les ramasser et ça raccourcit un peu les saisons. Donc on va être vraiment sur la fin des fraises. Il y a plus cette semaine, par exemple, sur les Monts Lyonnais, fini la cerise. Bon, c'est pas grave, puisqu'on est au début de la fin de l'abricot, au début des pêches, des fruits à noyaux. Et puis, on va avoir quand même tous les fruits rouges qui vont arriver, les framboises, les myrtilles, les cassis à maquereau, les mûres. Voilà, donc vraiment, l'été, pour moi, c'est la tomate, déjà.
Jusqu'à octobre.
Voilà, puis dans la consommation aussi, puisque l'été, on n'a rien à manger, c'est pas grave. Tomate, melon, pastèque, un petit peu de feta et on n'en parle plus. Donc voilà, pour le légume, on est vraiment sur la tomate, les fruits à ratatouille, bien sûr. Et puis pour le fruit, beaucoup de melon. Et puis aussi la pastèque quand même, puisque comme c'est la canicule ces jours-ci, la consommation de la pastèque, c'est un truc de fou, ça explose. Et puis les gens aiment de plus en plus ce fruit.
En préparant cette interview, je lisais que plus de 90-95% de la consommation aujourd'hui des fruits et légumes en France consistait en une dizaine de variétés, parmi lesquelles évidemment la tomate, la pomme de terre, etc. Mais qu'il y avait un déficit de connaissances sur beaucoup de variétés, beaucoup de produits qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît plus, qu'on connaît moins. Comment est-ce que vous expliquez ça, Clotilde Jacquelot ? Est-ce qu'il est possible de faire marche arrière ?
Alors, on a un gros problème en France. On a voulu normaliser. Alors, ça veut dire quoi ? On a voulu dire la tomate, voilà, elle est ronde, elle est rouge et elle est...
Elles sont fortes.
Voilà, elle est de calibre 57-67. Alors, moi, je suis contre la normalisation. Je suis pour que la nature s'exprime. Il n'y a rien de mieux qu'une belle grosse tomate tordue, même s'il y a un côté où elle est moche. Nous, on n'est pas parfait. Les fruits et légumes, c'est pareil. Donc, la normalisation, ça a été une demande un peu, je dirais, des grandes surfaces. Alors, il n'y a pas de critique, ne me voyez pas là un discours négatif, mais voilà, ça a été plus facile pour eux de vendre, de passer en caisse, ou pour les clients, vraiment, cette normalisation. Moi, je suis contre parce que je trouve que vraiment, sur un arbre, c'est comme pour nous, on est tous différents. Et par exemple, on a des abricots, un exemple très simple, l'oranger de Provence, c'est un abricot qui est tout clair, mais qui est excellent. Et aujourd'hui, on ne le trouve plus. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile à vendre. Les gens, ils ont dans la tête l'esprit d'un abricot qui soit coloré. Eh bien non, ce n'est pas forcément toujours vrai. Des fois, des abricots très colorés, par exemple le raviron, C'est une variété hyper colorée qui n'est pas bonne du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà, et là, c'est là que notre métier de primeur, le conseil du primeur, oui, il intervient. Parce que là, on est capable de dire, attendez, vous ne vous fiez pas à ça, c'est à moi, vous faites confiance.
Éventuellement, je vous fais même goûter et vous allez voilà, voir que c'est très bon. Voilà.
Et là, notre métier, il prend du sens parce qu'on est là pour expliquer. Est-ce que moi, j'explique à mes clients, c'est ce que mes producteurs m'expliquent. C'est ce que j'ai appris en allant vers les producteurs. Donc voilà, c'est une chaîne de travail qui prend du sens à ce moment-là.
Elle s'attable.
Vous dites que le travail avec les producteurs est absolument essentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait votre métier de primeur comme vous le faites, en tant que MOF, il y a une partie qui consiste effectivement à acheter dans des marchés de gros. Vous, c'est Lyon, qui est le marché de gros qui permet de desservir Morteau. Mais est-ce qu'il y a aussi vraiment un travail en lien d'aller chez les agriculteurs, dans leurs exploitations, de discuter avec eux, de voir de quelle manière les choses sont produites?
Alors pour moi, c'est essentiel. Pour bien vendre un produit, il faut bien le connaître. Alors effectivement, moi je vais vendre des bananes toute l'année et j'ai besoin du marché d'intérêt national de Lyon qui s'appelle Corba pour acheter à des importateurs des bananes, des ananas, des produits qui vont venir de l'étranger toute l'année. Mais c'est essentiel pour moi de savoir comment ça pousse pour mieux vendre, pour mieux comprendre, pour mieux expliquer, pour vendre au bon moment, au bon prix, pour expliquer un prix, pour expliquer un produit. Donc ça, c'est essentiel. Et moi, je ne peux pas le deviner. Il n'y a pas vraiment de livre qui va vous expliquer tout ça. C'est l'expérience, c'est les rencontres, c'est les moments qu'on passe pour vraiment découvrir un produit de A à Z. Par exemple, les abricots, quand on a cette fameuse variété dont je vous parlais tout à l'heure qui n'est pas bonne, du coup, on coupe tout et puis on va greffer des arbres sur souvent le tronc, qui est un tronc de prunier en général, puisque c'est des troncs qui vont être peu sensibles.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cible maladie, on coupe toutes les branches, on remet des autres branches dans l'abricot, qui est peut-être moins beau, mais qui est très bon. Donc c'est vrai que tout ça, on ne peut pas l'apprendre si on ne le voit pas. Et puis nous, on est là aussi pour inciter les producteurs à travailler mieux. J'ai l'exemple d'une productrice de salade qui a un petit peu du mal avec la qualité de ses salades. On l'a incité à faire de la solarisation en mettant des grandes bâches noires sur ses champs après avoir récolté. Alors ces grandes bâches noires, ça fait comme nous, quand on fait un sauna, ça chauffe un peu. Alors ça va tuer des petits insectes, ça va chauffer, la terre va se sentir mieux. Et après derrière, on a une qualité qui est beaucoup meilleure pour cette salade. Et voilà, c'est une technique simple, vieille comme tout. Et puis avec Christine, elle a décidé de le mettre en place. Et puis c'est vrai que la qualité de ses salades s'en ressent énormément.
Alors vous-même, j'imagine que vous consommez énormément de fruits et de légumes.
Effectivement, je suis pas végétarienne, plutôt flexitarienne, mais oui, effectivement, je mange pratiquement que des fruits et légumes. Déjà parce que quand j'ai fini ma journée de boulot, j'ai déjà beaucoup mangé. Le mercredi, je me lève à minuit pour aller à Lyon en camion. Donc c'est vrai qu'à 7h du matin, je vais peut-être manger parfois 3 œufs au plat avec mes copains ou un steak tartare parce qu'à 7-8h, on a faim. Mais voilà, le reste de la journée, ça va être trouver la bonne palette avec le bon prix, goûter. Non, cette palette-là, c'est pas assez bon, montre-moi autre chose. Voilà, il y a vraiment un échange. C'est un métier vieux comme le monde. C'est un métier d'échange, c'est un métier où c'est qu'on négocie. C'est un métier où c'est que vraiment, il faut goûter. On ne peut pas bien faire mon métier si on ne goûte pas tous les produits. Alors, c'est vrai que le mercredi soir, je ne mange pas parce que j'ai déjà tellement mangé de fruits, de légumes. Et même les légumes, on les goûte. Par exemple, hier, j'ai acheté des petits pois de Bretagne. C'est juste une tuerie. Ils sont fins, ils sont sucrés, ils sont tendres. On n'a presque même pas besoin de les cuire. Donc voilà, et on est obligé de goûter tous ces produits pour savoir ce qu'on vend.
Alors, vous avez des enfants? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des enfants. Clotilde, comment fait-on manger des légumes aux enfants? Puisqu'il semble que beaucoup de parents aient du mal.
Moi, je dirais qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. C'est aussi une question d'habitude. Moi, j'ai toujours mangé beaucoup de fruits et légumes. Mais c'est vrai que si aux enfants, vous ne leur proposez jamais des fruits et légumes, je vais dans des classes et c'est assez impressionnant. Par exemple, pour la semaine du goût, des gamins de 6 ans, il y en a qui savent ce que c'est que l'aubergine, puis il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'une tomate jaune. Alors que ça ressemble à une tomate. Je ne sais pas comment expliquer, mais là, c'est vraiment l'éducation, ce que les parents vont apporter aux enfants. En même temps, aujourd'hui, quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est une vérité absolue. Tous les enfants savent ça. Donc, j'espère que les générations à venir vont vraiment être là-dedans, manger sain, manger frais. Moi, je vois par exemple beaucoup de jeunes mamans qui se mettent à cuisiner parce qu'elles ont des enfants. Donc là, voilà, c'est formidable. On a envie d'aller vers une meilleure consommation et puis encore plus qualitative et quantitative de fruits et légumes.
Elle s'attable.
Vous êtes MOF, donc meilleur ouvrier de France, qui est quand même l'acmé de ces métiers de bouche, qui sont des concours très complexes. Racontez-nous, alors d'abord, pourquoi vous avez fait ce concours de MOF, Clotilde Jacoulot, et de quoi il s'agit?
Oui, alors en 2010, c'est le syndicat des détaillants de fruits et légumes qui a décidé de mettre en avant notre métier. Moi, je peux passer des heures à vous expliquer que c'est un métier compliqué, mais qui est beau, que j'adore et tout ça. Et bien, c'est vrai qu'on avait envie de, même, pareil, comme on disait tout à l'heure, il n'est pas assez connu, on avait envie de mieux le faire connaître. Et donc, il a été créé sous l'égide de l'Éducation nationale ce concours pour que nous puissions trouver les meilleurs parmi nous pour encore mieux expliquer aux gens. Et moi, à travers ce concours, j'ai beaucoup appris. Parce que comme c'était la première fois, il n'y avait pas, d'histoire de ce concours. On a été là vraiment pour le créer. Il faut savoir que c'est un concours qui dure 3 ans pour chaque métier. Je crois qu'il y a pratiquement 200 métiers. Voilà, c'est long, mais en même temps, on a besoin de ça pour accéder à l'excellence. Alors, la première année, on s'inscrit, on montre qui on est. Voilà, là. Après, on a des sélections un petit peu sur des corbeilles, sur des choses assez simples, sur la normalisation, le pancartage. Il y a un gros QCM aussi pour savoir si les gens ont des connaissances. C'est-à-dire que des fois, on a des gens qui ont de l'or dans les mains, mais qui ne vont pas avoir de connaissances. Et un meilleur ouvrier de France, dans n'importe quel métier que ce soit, c'est quelqu'un qui est complet, qui est capable de vous parler aujourd'hui, qui est capable de bien expliquer à un enfant, qui est capable de bien expliquer à un professionnel ou vers un producteur, de connaître les bonnes variétés au bon moment. Donc voilà, le concours dure 3 ans. Moi, je me suis vraiment bien amusée, je dirais. J'ai eu vraiment beaucoup de soutien de ma famille. Je n'ai pas vécu ça comme chose de... ça a été vrai. Puis comme c'était la première fois, moi, j'y allais un peu comme ça. Il y a là, j'y vais. J'ai envie de...
On verra ce que ça donne.
Voilà, j'ai envie de rencontrer mes semblables. Il y a 10-12 ans, il y a moins les réseaux sociaux. Alors, je pense qu'on est aujourd'hui sur le stand de Laurent Bertolin, avec qui j'ai passé la sélection du concours du meilleur ouvrier de France. Et c'est comme ça qu'on se connaît. Donc, c'est ça aussi l'idée, c'est se rencontrer, c'est échanger.
Créer un réseau.
Créer un réseau. Ah tiens, toi, tu vends ça, mais où c'est que tu trouves ce produit? Mais pourquoi moi, je ne le trouve pas? Mais moi, je le trouve et je ne le vends pas. Et toi, tu le vends. Et voilà. Et on progresse. Et du coup, moi, quand j'ai passé le concours, je me suis vraiment éclatée. Et j'ai gagné. Sur le moment, je n'aurais pas pu dire ce que ça allait m'apporter. Il faut aussi, à un moment donné, quand on porte les couleurs de la France, pouvoir les assumer. Ce n'est pas toujours facile.
Parce que quand on est MOF, on porte une blouse dont le col est bleu, blanc, rouge, comme le drapeau de la France.
Voilà, et pour moi, ce n'est pas anodin de porter les couleurs de la France. Je vais le faire comme il faut, je vais le faire avec fierté. Pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes clients, pour la valorisation du titre, être meilleur ouvrier de France, c'est porter l'excellence de mon métier. Et c'est important pour moi de ne pas le faire n'importe comment. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais un peu déstabilisée. J'avais 34 ans, je suis quelqu'un d'un petit peu fofolle comme ça. Je suis très spontanée et c'est vrai qu'à un moment donné, on m'a dit attention, tu poses tout, tu te détends, tu respires. Et voilà, il faut savoir se mettre dans la peau d'un meilleur ouvrier de France. Mais je reste Clotilde, la maman, de Morteau. Et voilà, donc c'est un titre merveilleux. Et puis aujourd'hui, j'écris des sujets. J'ai participé à tous les concours en tant que jurée. Donc c'est vraiment super. Je rencontre plein de jeunes qui ont plein de nouvelles idées, qui ont des connaissances, où je revois d'autres collègues que je n'ai pas vus depuis longtemps. Enfin, voilà, tout ça, c'est du réseau et c'est des bons moments.
Les 15 candidats au titre suprême travaillent sous le regard attentif des 15 jurés. Tout est décortiqué, tout est noté. Et cela dure depuis près de 100 ans. Les costumes ont changé, mais les exigences restent les mêmes. Le concours du meilleur ouvrier de France existe depuis 1924. Son but, mettre en valeur le travail manuel et l'artisanat. 9000 lauréats ont déjà été sacrés.
Label de grande qualité, le concours du meilleur ouvrier de France, impitoyable sélection, a donné à ce maître l'occasion de montrer un grand talent.
Vous êtes une femme, donc, Clotilde. Qu'est-ce que le fait d'être femme, d'après vous, change dans la manière d'exercer votre métier ou est-ce que ça ne change rien, finalement?
Alors, je dirais qu'au début, j'en ai vraiment bavé de m'imposer. C'était quand même il y a 25 ans. Sur les marchés professionnels, il y a beaucoup d'hommes, encore aujourd'hui. Donc, à l'époque, c'était un peu dur. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as une licence de maths, tu t'es perdu. Voilà, on se moquait un peu de moi. On m'a pincé les fesses. C'est pas grave, j'ai appris à ces moments-là à répondre.
Mes fesses sont bien.
Voilà, mes fesses sont bien. Mais j'ai appris aussi à répondre, à avoir du culot, à être capable de dire voilà, stop, moi je suis une femme, mais je suis professionnelle. Et puis tu vas voir ce que je suis capable d'acheter, que je paye, que je suis capable d'en acheter beaucoup. Et voilà, et c'est le temps et le travail qui m'a permis de m'imposer. Mais aujourd'hui, je pense que je suis plus forte que la plupart des hommes. Parce qu'être une femme, c'est aussi être capable de dire « Allez, s'il te plaît, un truc que les gars vont peut-être pas faire. » Donc, ce qui a été difficile au début, aujourd'hui, c'est un atout. Et je me rappelle une anecdote à Top Chef, il y a 2-3 ans, il y a eu 100 meilleurs ouvriers de France qui ont été réunis et il y avait 100 mecs. Et là, un journaliste m'appelle et me dit « Mais qu'est-ce que t'en penses ?» Ben, je lui dis « Moi, je suis en train de regarder et ça m'a pas choqué. Je suis une femme dans un milieu d'hommes. On ne demande pas aux femmes de faire des travaux publics. On ne demande pas aux hommes d'être sages-femmes. Que chacun soit heureux dans le métier qui lui corresponde, sache s'imposer. Et quand on aime son métier, eh ben, y a tout qui roule. »
Alors, sur l'étal qu'il y a là devant nous aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait de l'œil?
Alors, je dirais un peu tout quand même.
Et moi aussi, c'est bien le problème.
Je dirais que les tomates, c'est un produit que j'affectionne parce que il y a tellement de choses différentes. Il y a des choses qui sont très belles, il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des choses qui sont très mauvaises dans les tomates. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des tomates qui ne connaissent pas la terre pour pousser. Mais est-ce que vraiment cette tomate, elle est moins bonne? Alors, il faut aussi se poser la question de ce qui est écologique en termes d'arrosage. Bon, moi, je sais que les tomates de pleine terre et de plein champ, c'est quand même toujours meilleur.
Et quand on les cueille quasiment, qu'elles ont eu très peu de temps entre la cueillette et le moment où on les mange?
Il faut savoir qu'en plus, une tomate, une fois qu'elle a été mise au froid, elle perd du goût. Mais quand on remet cette tomate à température, elle ne reprend pas le goût. Ah. Et c'est un des seuls produits qui vit ça. C'est-à-dire qu'un fruit, grâce au sucre, même s'il y a eu du froid sur ce fruit, le sucre va permettre qu'il reprenne son goût une fois qu'il sera à la bonne température. Mais la tomate, elle souffre, elle déteste le froid.
Pas de tomate au frigo, s'il vous plaît.
Voilà, achetez-en moins, allez plus souvent chez le primeur. Et puis une bonne tomate qui a été vendue au bon moment, on peut la garder quand même quelques jours. Et quand la tomate elle est trop mûre, on fait un gazpacho, on ne jette jamais une tomate. Donc voilà, après c'est vrai que moi j'aime les petits pois, je vois que sur ce stand c'est magnifique, ils sont déjà écossais, donc ça c'est le rêve de toute cuisinière de trouver déjà les petits pois écossais, ça rejoint un petit peu les ateliers de fraîche découpe qu'on peut trouver. Après, voilà, l'été il y a vraiment tous les produits, les fenouils français en ce moment c'est juste une tuerie, c'est le bon goût, ils sont fins, ils sont tendres, on les mange crus, juste râpés avec un peu d'huile de sésame par exemple et quelques graines, voilà c'est juste merveilleux. Après ben, dans les pommes de terre aussi on se régale, hein, parce que c'est des pommes de terre.
Donc là devant nous, il y a de la noirmoutier notamment.
Oui, alors dans la noirmoutier, on est presque, je dirais, à la fin. Alors il faut savoir que la noirmoutier, c'est une pomme de terre précoce. Ça veut dire qu'elle a été ramassée avant qu'elle soit mature. Donc en fait, la peau est très très fine. Quand on la frotte, elle s'en va. C'est pour ça qu'on l'aime bien aussi, parce qu'on va manger la peau, elle va amener un petit goût. Bon, les pommes de terre de la noirmoutier, c'est juste très très bon.
Et on les fait sauter avec un peu d'ail simplement, et c'est parfait.
Voilà. Et même au four, moi je dis, c'est des toutes petites pommes de terre comme ça. Des fois, c'est hyper pratique quand on travaille. On met dans un plat au four, on programme le four et on arrive à midi, c'est cuit, c'est chaud, c'est juste parfait.
Comment imaginez-vous votre avenir, Clotilde Jacoulot?
Eh bien, je vous dirais que j'ai encore envie de progresser et puis encore envie d'évoluer, faire évoluer mon magasin. Je sais par habitude qu'il ne faut pas attendre que les clients se lassent d'un environnement pour créer un nouvel environnement. J'avais racheté une ancienne usine de baromètres que j'ai transformée en magasin. Et là, ça fait 8 ans. Donc là, moi, mon avenir proche, ça va être de refaire ce magasin avec des nouveaux matériaux, avec peut-être quelques nouveaux produits, puisqu'aujourd'hui, les consommateurs nous demandent par exemple beaucoup de fromage. Donc on se posait la question, est-ce qu'on ne ferait pas... Moi, j'habite en Franche-Comté. En Franche-Comté, bon, on l'a dit, il y a la saucisse de Morteau, mais il y a aussi quand même beaucoup de fromage. C'est un autre métier, c'est un métier difficile, c'est un métier qui demande aussi beaucoup de connaissances. Est-ce que moi, je me sens capable? Donc peut-être on va aller faire des formations. En tout cas, mon avenir, moi, ce que je préfère, c'est les clients. Être vers les clients, mes mamies, mes gens, les messieurs, les femmes, ceux qui cuisinent, ceux qui ne cuisinent pas, ceux qui savent cuisiner, ceux qui ne savent pas. Moi, c'est là que je me sens utile, c'est là que je me sens douée d'accueillir les clients dans mon magasin. Il faut savoir que nous, c'est un magasin en libre-service. Alors, ça surprend un peu chez un meilleur ouvrier de France. Mais on a une clientèle habituée qui se sert vraiment avec politesse et sans jamais abîmer les produits. En tout cas, ça arrive très rarement. Donc, c'est vrai qu'on a un magasin un peu atypique et puis... Là, moi, j'ai vraiment du plaisir. Et puis peut-être dans 10 ans, ben, j'aimerais changer de métier vers 55 ans, peut-être faire carrément autre chose, peut-être journaliste.
Eh bien, bienvenue. Mais on aurait peut-être même besoin avant. On a souvent une question rituelle à la fin du podcast Elsa Table, qui est « En quoi pensez-vous que les femmes transforment le monde ?» Clotilde Giacoulo.
Elles transforment le monde parce qu'elles sont positives, elles sont souriantes, elles sont dynamiques. On a de la ressource, on a une ressource énorme et puis on a des capacités à se réinventer, à se remettre en question. Moi, je ne suis pas féministe, je dis tout le temps ça, mais en fait, je crois bien que je le deviens. Et voilà, quand les femmes réussissent, ben, pourquoi ce serait moins bien ou mieux que les hommes? Moi, je suis pour juste être heureux dans le travail. Donc, en ça, les femmes, je trouve qu'on a beaucoup plus de ressources que les hommes.
Merci infiniment. On va conclure en disant qu'on ne mange jamais assez de fruits et de légumes.
Alors ça, on n'en mange jamais assez, c'est une certitude. On peut en manger le matin, le midi, le soir, tous les mois de l'année, dans n'importe quelle circonstance, cru, cuit, allez-y, râpé, coupé, en cubes, en rondelles.
Voilà. Et n'ayez pas peur d'aller rencontrer des fruits et des légumes que vous ne connaissez pas. En règle générale, ça donne des bonnes surprises.
Oui, puis n'ayez pas peur d'aller chez le primeur. Parce que là, vraiment, vous cherchez un conseil, vous cherchez une recette, vous cherchez une nouveauté, vous cherchez un produit que vous n'avez trouvé nulle part ailleurs. Les primeurs, eh ben, grâce au réseau, on est là pour vous trouver justement ces bons produits. Et puis, comme vous le dites, d'essayer de manger toujours des choses différentes. C'est là qu'on arrive à avoir des nouvelles variétés, puis à faire évoluer le métier de primeur.
Elsa Table.
Merci infiniment Clotilde Giacoulo.
Merci Daniel.
J'espère que ce nouvel épisode de Elsa Table vous a plu. On vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain. Mais d'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et en écouter d'autres. À bientôt.
Elsa Table. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elsa Table, en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.